Juges chapitre 13. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra en la main des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsora, de la famille de David, et son nom était Manoah. Et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange rien d'impur, car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Et la femme vint et parla à son mari, disant, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect d'un ange de Dieu très terrible. Et je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Et il m'a dit, « Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. » Car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Et Manoah supplia l'Éternel et dit, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, je te prie, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au jeune garçon qui naîtra. » Et Dieu exauça la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme comme elle était assise au champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et la femme se hâta et courut et rapporta à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est apparu. » Et Manoah se leva et suivit sa femme et il vint vers l'homme et lui dit, « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ?» Et il dit, « C'est moi. » Et Manoah dit, « Quand donc ta parole arrivera, quelle sera la règle du jeune garçon et que devra-t-il faire ?» Et l'ange de l'Éternel dit à Manoah, « La femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. » Verset 15. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Laisse-nous te retenir et t'apprêter un chevreau. » Et l'ange de l'Éternel dit à Manoah, « Si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton pain. Et si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Car Manoah ne savait pas que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton don, afin que nous t'honorions quand ce que tu as dit arrivera ?» Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Et Manoah prit le chevreau et le gâteau, et il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et il fit une chose merveilleuse, tandis que Manoah et sa femme regardaient. Et il arriva que, comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, Manoah et sa femme regardant. Et ils tombèrent sur leur face contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah ni à sa femme, alors Manoah connut que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 24. Et la femme enfanta un fils et appela son nom Samson, et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. En tournant la page au chapitre 16, Samson est devenu un homme, et c'est un homme prodigieux. Au verset 7 du chapitre 16, il a donc pris une femme des étrangères, Delila, et au verset 6, et Delila dit à Samson, « Déclare-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force, et avec quoi tu pourrais être lié pour t'humilier ?» Et Samson lui dit, « Si on me lie avec 7 cornelettes fraîches, ils ne fussent pas desséchés, alors je deviendrai faible, je serai comme un autre homme. » Verset 10. Et Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, déclare-moi, je te prie, avec quoi tu pourrais être lié. » Et il lui dit, « Si on me liait bien avec des cordes neuves dont on n'aurait fait aucun usage, alors je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Verset 13, et Delila dit à Samson, jusqu'ici tu t'es moqué de moi, et tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi tu pourrais être lié. Et il lui dit, si tu tissais cette tresse de ma tête avec le fil à tisser, et elle les fixa avec la cheville, et lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du tissu et le fil. Toujours au chapitre 16, verset 28. Et Samson cria à l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu, afin que d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes deux yeux. Nous arrêtons là. C'est une histoire, chers amis, aussi intéressante qu'encourageante d'une part, qu'elle est affligeante d'autre part. L'histoire de l'homme le plus fort que nous trouvions dans la parole de Dieu, et en même temps, la fin d'un homme dans les conditions qui nous affligent, en voyant comment, hélas, la force que Dieu lui avait donnée lui a été ôtée. Et la dernière victoire qu'il remportera en s'adressant au Seigneur éternel, c'est une victoire d'aveugle. Mais avant d'en arriver là, rappelons que nous parlons haut assez. Si quelqu'un n'entend pas, il doit lever la main. Alors. Rappelons que ce livre des juges est un livre qui commence par une circonstance bien caractéristique. Le livre qui précède, on l'a souvent rappelé, correspond dans le Nouveau Testament à l'Épître aux Éphésiens, c'est-à-dire à l'état d'une assemblée à laquelle l'apôtre peut développer les pensées les plus riches, les plus précieuses du cœur de Dieu. Il en est le porteur, il en est le révélateur. Cet homme autrefois, ennemi acharné des croyants, ennemi implacable de ceux qui confessaient le nom du Seigneur, est devenu lui-même un serviteur de ce maître qu'il sert maintenant avec bonheur, avec énergie, et laissant sa vie sans aucune espèce de réserve si le Seigneur la lui demande. Il a été choisi par le Seigneur pour nous donner, pour nous révéler ce que personne d'autre n'avait reçu jusque-là, les vérités relatives à Christ et à l'Assemblée. Les vérités les plus précieuses du cœur de Dieu sont celles qu'il fait connaître les dernières. L'Épître aux Éphésiens, étant donné l'état pratique de cette Église, permet à Paul de développer devant eux ce glorieux conseil de Dieu relatif à Christ, à qui Dieu voulait donner une épouse, compagne de sa gloire. En la lui donnant, à lui, comme fils de l'homme, l'homme qui a souffert, qui a été injurié, dont la face a été ruisselante de crachats, et qui n'a eu pour terminer sa carrière qu'une croix d'infamie, cet homme, glorifié au ciel, Dieu lui donne la récompense la plus haute qui soit. Ce n'est pas assez pour Dieu de lui donner le trône de David son père, ou la domination universelle. Dieu avait quelque chose de plus grand encore que cela. Ce chef, cet homme glorifié, Dieu le donne à l'Assemblée, qui est son corps, et avec laquelle il forme cette plénitude qui remplit tout et en tous. Le livre de Josué correspond à l'Épître aux Éphésiens, où les croyants sont vus. L'apôtre ne parle pas du retour du Seigneur dans l'Épître aux Éphésiens. Ce n'est pas nécessaire, les croyants sont déjà assis dans les lieux célestes. Ils sont déjà tellement en dehors des choses de la terre qu'ils sont assis spirituellement et selon la foi des élus de Dieu, ils sont déjà assis en esprit dans les lieux célestes. C'est le livre de Josué où nous avons les victoires du peuple de Dieu à partir de Gilgal sans doute. Le peuple va de nouveau vers de nouveaux combats pour remporter de nouvelles victoires. C'est bien ce que nous avons dans le livre de Josué, et qui correspond à l'Épître aux Éphésiens. Moïse avait dit, l'Éternel avait dit par Moïse, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Sorte que des lieux célestes, les bénédictions spirituelles que nous avons dans les lieux célestes sont un objet de lutte et de combat. Nous ne les possédons qu'au fur et à mesure que nous avançons et que nous combattons le vrai combat de la foi, selon Éphésiens 6. Ce temps, hélas, ce temps si beau du commencement n'a pas duré, chacun le sait. Au livre de Josué succède le livre des Juges, qui a comme correspondant dans le Nouveau Testament la deuxième épître à Timothée, Éphèse, qui était si particulièrement privilégiée. Nous en avons toute l'histoire dans la parole de Dieu. Elle exemplifie l'histoire de l'Église elle-même. Elle a été particulièrement bénie. Elle a reçu une lettre de l'apôtre qui est l'expression des pensées les plus riches du cœur de Dieu. Paul a fait venir les anciens à Éphèse. Il a envoyé Timothée dans cette assemblée pour enrayer déjà les premiers éléments qui venaient contrarier la bénédiction. Et enfin, nous avions aujourd'hui le rappel dans Apocalypse 2, la lettre de Jean à Éphèse, une trentaine d'années plus tard. Mais quelle différence déjà entre l'Éphèse de Paul, l'épître aux Éphésiens, et l'Éphèse de Jean dans l'Apocalypse au chapitre 2. Et nous revenons à ce qui est rappelé ce matin, ce que personne ne pouvait voir à Éphèse, car il y avait encore beaucoup de bien dans cette assemblée, on jugeait le mal, on ne le tolérait pas, il y avait beaucoup de dévouement. Néanmoins, le Seigneur introduit une toute petite phrase qui est le motif, le secret de toute la décadence qui allait suivre à travers les autres églises, puisque les sept églises nous donnent une histoire complète des divers états de cette assemblée jusqu'au moment où, comme corps responsable, le Seigneur va la vomir de sa bouche. Quelle est cette phrase si solennelle, brève, mais solennelle? Le Seigneur lisant dans les cœurs, comme dans un livre ouvert, et ce que personne ne pouvait voir, le Seigneur le lit, et à côté de tout le bien, et le bien qu'il y avait à Éphèse ne pouvait pas empêcher la décadence finale, si cet élément que le Seigneur va leur dire, n'était pas corrigé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et de là, chers amis, provient tout le mal qui va suivre. Car si le Seigneur n'a plus notre cœur, ou une partie de notre cœur, il n'aura bientôt plus rien. Et nos pieds suivent nos cœurs. Le livre des Juges correspond précisément à la deuxième épître à Timothée, qui envisage les temps actuels, c'est-à-dire la fin d'une économie, les derniers temps, et l'état de l'Église qui n'a fait que descendre depuis le commencement. Au lieu des victoires que Josué remportait à la tête du peuple, hélas, nous n'avons que des défaites et des pleurs. L'ange vient au commencement auprès de Josué, l'ange de l'Éternel avec son épée dans sa main. Et Josué, capitaine intrépide, ne peut pas se satisfaire d'équivoque quelconque. Il dit, mais tu pour nous ou avec nous? Mais il apprend que l'homme qui se trouve devant lui, c'est l'ange de l'Éternel. Et dès lors, le caractère de Dieu toujours revendiqué, Josué, enlève la sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est sanctifié par ma présence. Dieu est un Dieu saint, il le revendique toujours. Et Josué se jette sur sa face. Au début du livre des Juges, l'ange vient encore au milieu du peuple. Mais hélas, ce n'est plus avec son épée nue dans sa main, la mettant au service de ce peuple pour le conduire de victoire en victoire. Nous n'avons plus que des défaites. Le peuple, au contraire de ce qui se passe dans le livre de Josué, assujettissant ses ennemis et battu par ses ennemis, subit des défaites sur défaites. Et l'ange monte à Bokim, non plus à Gilgal, mais comme un père parle à ses enfants. C'est extrêmement touchant de voir comment l'ange de l'Éternel vient parler au peuple et leur dit, mais pourquoi avez-vous fait cela? Comme un père qui est vraiment désolé en présence de la conduite de ses fils ou de son fils qui entraîne des conséquences bien douloureuses pour lui qu'il ne peut plus éviter, dans ce chapitre 2, vous n'avez pas écouté ma voix, verset 2. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous fait cela? Quel profit avez-vous d'avoir fait cela? Car si nous n'écoutons pas, comment le prophète Jérémie dit-il, ajoute-t-il, qu'est-ce que le prophète Jérémie ajoute? Si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas soumis, vous n'avez pas écouté l'Éternel, pourquoi? Pour votre propre malheur. C'est à notre propre confusion et pour notre propre malheur si nous n'écoutons pas. Pourquoi avez-vous fait cela? Dès lors, l'Éternel dit, l'ange éternel dit, je ne vous sauverai plus. Mais ses compassions étant infinies, il est ému en voyant la détresse de ce peuple. Et cette fois, nous avons, ils firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et cette fois, ils sont dans la détresse. Cette fois, l'Éternel intervient pour les sauver. Et ils recommencent à faire ce qui est mauvais. Dieu leur suscite un sauveur car il avait compassion d'eux. Et de nouveau, ils se moquent de Dieu et ils recommencent à faire le mal. Quand nous arrivons au chapitre 13, chers amis, c'est la septième fois, c'est la dernière fois que nous avons la mention avant leur chute définitive. C'est la dernière fois que nous avons les fils d'Israël qui de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livre en la main des Philistins pendant 40 ans. Mais cette septième fois est très caractéristique, car maintenant, ils sont livrés aux ennemis qui sont à l'intérieur de leurs frontières. Autrefois, c'était les ennemis de l'extérieur qui franchissaient la frontière d'Israël, les Moabites par exemple, et qui remportaient la victoire sur eux, qui les assujettissaient, qui enlevaient tous leurs biens et qui les réduisaient dans des conditions, qui les réduisaient en esclavage, pour ainsi dire. Mais maintenant, ce sont les Philistins, et dans les limites même que Dieu leur a données, qui sont établis et qui deviennent leurs oppresseurs, qui sont au-dessus du peuple de Dieu, alors que ce peuple, s'il avait été fidèle, devait conquérir toute la terre que Dieu avait mise à leur disposition et refouler les ennemis, si pas les assujettir et les détruire entièrement. Car Moïse dira, pour en faire une petite application aujourd'hui en passant, le pays vomit ses habitants. Les guerres de Canaan sont les seules qui sont légitimes dans la parole de Dieu. Mais ces guerres de Canaan étaient de véritables jugements que Dieu envoyait sur ces populations, car la terre vomissait ses habitants, étant donné la corruption dans laquelle ils s'étaient enfoncés. Dieu châtiait ces nations et les chassait loin de leur terre. Dieu ne le fait pas avant que le mal soit parvenu à son comble, nous le savons bien. Car Abraham, dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, il dit « L'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. » Mais si Dieu est un Dieu de patience, il se doit à lui-même, pour sa gloire, de juger le mal et c'est ce qu'il va faire demain. Et comme le pays vomissait ses habitants, le prophète nous dit à l'égard du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, « La terre chancelle. » Comme un homme ivre, car sa transgression pèse sur elle. Nous pourrions bien lire ce passage dans le prophète Isaïe, mais vous le connaissez bien. Alors, la terre chancelle comme un homme ivre, étant livrée à tous les courants qui l'animent, l'apostasie, le mystère d'iniquité qui opère déjà avec les conséquences qui en découlent, la corruption et la violence, le monde, moralement, se dissout autour de nous. Et nous sentons bien les hommes quelque peu intelligents, sentent bien, sans qu'ils aient pourtant la crainte de Dieu, les hommes doivent dire, mais la machine est détraquée, nous sentons bien que quelque chose est faussé, et nous allons au-devant d'une inconnue redoutable. L'inconnue redoutable, c'est le jugement qui va descendre du ciel lorsque le Seigneur va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, car Dieu ne tolérera pas toujours, il ne faut pas que nous supposions à ce instant que Dieu est insouciant à l'égard du mal. Et que s'il est patient, cela veut dire qu'il est tolérant. Mais Dieu ne veut pas la mort du coupable. Dieu veut ça. La repentance souhaite, demande, appelle l'homme à se repentir pour qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du coupable, mais sa repentance et sa vie. Dieu est patient envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Et lorsque Dieu jugera le monde demain, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, ce sera en relation avec sa gloire, et toute bouche sera fermée. je ne sais plus, un de ces derniers jours, nous rappelions ce que le cas de David, par exemple. Dieu sera justifié par le jugement et le coupable donne lui-même la mesure du jugement qui lui sera mesurée par Dieu. Dans le cas de David, nous citons celui-là, mais il y en a d'autres. Quand Nathan, le prophète, vient lui raconter d'une manière voilée ce qu'il a fait, lui, cet homme riche qui possédait tant de troupeaux et qui est venu dérober la petite brebis d'un homme pauvre pour la préparer pour un voyageur qui était chez lui, David dit, mais cet homme qui a commis cette énormité, il est digne de mort. David, tu as prononcé toi-même ton jugement. Le jugement est véritable et juste, dit la parole de Dieu. Les jugements de Dieu sont véritables et justes. Et le coupable devra dire, le jugement sous lequel je suis placé, il correspond à la justice. Et cet homme qui me juge, car c'est lui qui jugera demain, sauveur aujourd'hui sans doute, l'homme devra dire, l'homme qui me juge, qui est assis sur le trône et qui me juge, est celui qui voulait me sauver et me délivrer à jamais des conséquences de mes fautes. Quelle folie de l'avoir méprisé. Au début du chapitre 13, nous avons donc la septième fois où l'Éternel, où le peuple fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et Dieu le livre à ses ennemis. Mais qu'est-ce que Dieu va faire, ça? Nous arrivons tout de suite pour avancer un peu. Dans tous les temps, dans tous les endroits, quelles que soient les conditions, Dieu a toujours eu des témoins fidèles. Dieu a toujours eu quelques âmes qui brillent d'autant plus dans leur témoignage pour le Seigneur que les droits de Dieu sont foulés aux pieds. Ce témoignage, c'est Philadelphie, dans tous les temps, car l'esprit de Philadelphie est celui du résidu fidèle depuis le commencement. Ceux qui craignent l'Éternel, qui pensent à son nom, qui aiment son nom et qui retiennent sa parole, toute sa parole lorsqu'elle est jetée par terre, qu'elle est foulée aux pieds. Ce témoignage a d'autant plus de prix pour le Seigneur que les temps sont mauvais. Puissions-nous, chers amis, chers jeunes gens, être comptés au nombre de ces quelques-uns que le Seigneur aura la joie demain de dire « Viens, bon, fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, tu n'as pas renié mon nom, tu as maintenu, c'est-à-dire l'ensemble de mes perfections qui sont liées à moi-même, tu as maintenu cette gloire de mon nom, tu n'as pas renié ce nom. » Et qui va-t-il prendre pour être ses témoins? Eh bien, vous voyez dans ce livre des gens tout simples, de la campagne. Manoah et son épouse sont des personnes toutes simples, ne brillent pas par un relief quelconque. Par exemple, dans le cours de l'histoire, on voit qu'à un moment donné, cette femme toute simple est assise au champ. Son mari occupait d'autres travaux. Elle n'a pas des servantes en grand nombre, comme Sarah, son ancêtre. Elle doit travailler elle-même. Et harassée de fatigue, elle prend un peu de repos en s'asseyant au champ. C'est l'occasion pour l'ange de l'Éternel de venir la trouver. Donc Dieu prend les personnes toutes simples, marquées par l'humilité, sans aucune recherche pour elles-mêmes. Et Dieu va en faire les témoins de sa gloire au milieu d'un état de choses si sombre que celui du livre des juges. Au moment où tout se prépare pour la décadence finale, la disparition des lits de la sacrificature, avant qu'une nouvelle économie commence avec David. Maintenant, il va se servir du fils de ce ménage, de ce jeune ménage, qui est privé d'enfants, non pas selon sa détermination, loin de correspondre à ce que nous voyons aujourd'hui, mais c'était un deuil pour eux, car pour une femme pieuse en Israël, c'était quelque chose de très douloureux de se trouver dans la position de l'épouse de Manoah, femme intelligente, femme pieuse, malgré son état social bien inférieur. Mais elle a la crainte de Dieu. Comment va réagir le peuple quand leur fils, qui va commencer à sauver Israël, il n'est qu'une illustration bien atténuée de celui à l'égard duquel il serait dit non pas qu'il allait commencer à sauver son peuple, car c'est lui, dit l'ange, qui sauvera son peuple de leurs péchés. Jéhovah sauveur sur la scène. Samson n'est qu'une faible figure de celui qui devait venir. Mais comment va-t-on apprécier le service qu'il va rendre? Le premier coup qu'il va frapper aux Philistins est un coup de maître. Et comment le peuple va-t-il apprécier cela? Va-t-il dire, ah, nous avons, grâce à Dieu, reçu un sauveur qui va secouer le joug sous lequel nous gémissons? Eh bien, c'est tout le contraire. Et quelqu'un a dit, hélas, les chaînes les plus lourdes, ce sont celles que nous sentons le moins. Et si nous tournons deux pages, une page au chapitre 15, quand Samson a scéné un coup terrible aux Philistins, 3000 hommes de Juda vont monter. Et au verset 10, les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils dirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin de lui faire comme il nous a fait. Et 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du côté d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous et que nous as-tu fait? Vous voyez, au lieu d'apprécier la présence d'un sauveur que Dieu leur donne, ils viennent circonvenir Samson et lui dire, mais il te faut cesser avec tes entreprises contre les Philistins, nous sommes tributaires des Philistins et nous acceptons ce joug. Ne réalisent même plus que les étrangers règnent sur eux, dominent sur eux, qu'ils sont devenus des esclaves. Quel parallèle on pourrait faire avec la chrétienté d'aujourd'hui, dominée par le monde, assujettie au monde, et qui ne désire pas secouer le joug du monde. Mais pour les parents de Samson, chers amis, c'est une honte, c'est une chose intolérable que le peuple de Dieu soit asservi aux Philistins. Alors, dans ce chapitre-là, au commencement, l'ange de l'Éternel vient apparaître à la femme, au verset 3. D'abord, une question, qui est cet ange de l'Éternel? Nous lisons souvent dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, qui est cet ange de l'Éternel? Eh bien, c'est un personnage mystérieux qui entre en scène pour des communications de la plus haute importance et qui sont d'une importance telle que nous pouvons dire c'est Dieu lui-même qui apparaît, mais dans une forme voilée, une silhouette humaine, si vous voulez. Et un de nos chers frères disait, dans la préincarnation qu'il allait revêtir un jour. Et nous pensons que cette expression, sais-tu bien la chose mystérieuse, la personne mystérieuse qui est devant nous, l'ange de l'Éternel, avec un A majuscule, car quand nous avons l'ange de l'Éternel avec un A minuscule, il est clair que notre cher devancier, car il n'y a pas de majuscule et de minuscule dans l'original, il est clair que notre cher devancier a bien saisi que l'ange avec un A majuscule, il s'agissait du Seigneur lui-même, de Dieu lui-même qui entre en scène d'une manière voilée pour approcher sa créature. Et à qui va-t-il apparaître pour la première fois? C'est intéressant de chercher et de suivre l'histoire de l'ange de l'Éternel jusqu'au moment où il y a une conclusion glorieuse dans l'Évangile selon Luc. À qui apparaît-il la première fois? À une pauvre femme chassée par sa maîtresse. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Il connaît son nom, le nom de sa maîtresse, ce qu'elle est, ce qu'elle fait comme travail. Le Seigneur est au courant, au fait de toutes nos difficultés. C'est d'où nous venons et où nous avons l'intention d'aller. Il vient l'arrêter sur ce chemin de tristesse, désolée, désespérée qu'elle est. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Quelle sollicitude! Si on continue l'histoire, elle passe par la famille de Manoah. Et si nous terminons, nous arrivons dans l'étable. Et l'ange est venu dire au berger, venez voir le signe. Le signe éclatant par excellence de la faveur de Dieu envers l'homme. Mais comment l'ange est-il écrit dans l'Évangile selon Luc? Avec un grand A, avec un A majuscule ou avec un A minuscule? Ah, comme notre traducteur a bien compris qu'il était opportun d'écrire l'ange avec un A minuscule, car l'ange avec le A majuscule, c'est lui qui est dans l'étable, couché dans la crèche. Dieu sur toutes choses, béni éternellement, qui vient pour accomplir toutes les promesses qu'il a faites, non pas seulement pour commencer à nous sauver, mais pour nous sauver entièrement. Et le salut, un salut complet qu'il va terminer en venant nous enlever de la scène. Et jusque-là, est-il dit, dit aux Hébreux, puissant pour sauver jusqu'à l'achèvement. C'est-à-dire jusqu'au moment où nous n'aurons plus besoin de rien, où notre condition de besoin aura pris fin, où nous en aurons fini avec un pauvre vase de terre dans lequel nous gémissons aujourd'hui. Puissant pour sauver, pour délivrer jusqu'à l'achèvement. L'ange de l'Éternel, c'est lui qui entre en scène ici. Et il vient parler à cette femme et lui dire, voilà, tu es stérile, image d'Israël qui n'a rien pu produire en vue de son salut, de sa délivrance. L'homme placé dans cette condition de responsabilité à l'égard duquel l'Éternel devra dire, finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans ses narines. C'est un être stérile. Quel cas peut-on faire de lui? Qu'ai-je pu obtenir de ma vigne? Non seulement de l'homme comme individu, mais de la nation la plus favorisée de la terre, celle dans laquelle Dieu avait placé un foyer de lumière, avait donné le don le plus excellent qui soit, c'est-à-dire les saints oracles de Dieu leur ont été confiés. Que dira-t-il de ce peuple par la bouche du prophète Ésaïe? Consentant à ouvrir un dialogue avec nous, nous prenant à témoin, dites-moi, que faut-il encore que je fasse? Trouvez-vous quelque chose que je n'ai pas fait pour ma vigne? J'ai fait tout ce qu'un vigneron intelligent, diligent peut faire pour sa vigne, et je n'ai récolté que des raisins sauvages. Dites-moi, qu'y reste-t-il encore à faire? Sinon, mais nous n'allons pas continuer sur ce sujet, chers amis. Nous en arrivons ici, vous voyez, c'est un sujet tellement vaste, mais nous comprenons bien que l'homme en la chair, que l'homme en la chair ne peut rien produire pour Dieu. Son histoire, le point final, Dieu y a mis le point final à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que toute prétention, quelle qu'elle soit, trouve sa fin. Alors cet ange de l'Éternel vient lui dire, tu es stérile, tu n'enfantes pas. Il est impossible que nous nous bénissions nous-mêmes, que nous trouvions en quoi que ce soit une ressource pour nous sortir de l'état dans lequel nous sommes, de l'esclavage sous lequel nous sommes tombés. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Tu es stérile, tu n'enfantes pas. Image d'Israël selon la chair. Mais voilà, dit-il, maintenant, une chose nouvelle va survenir, prends garde. Et tu vas réaliser pour toi-même un véritable Nazaréen. Car tu auras un enfant, et c'est lui qui sera Nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et il va commencer à sauver Israël. Et pour que ce sauveur que Dieu donne à Israël soit, et les facultés convenables, nécessaires, il faut que d'abord la femme observe ce que Dieu demande d'elle. Qu'elle réalise elle-même le caractère du Nazaréen, ou, autrement dit, de séparer ou de consacrer. C'est le même terme. Vous pouvez voir dans le livre des Nombres, chapitre 9, et dans d'autres, Lévitique 23, par là, vous pouvez voir que Nazaréen, consacré, séparé pour Dieu, c'est un seul et même terme. Que veut dire ce terme? Eh bien, c'est consacré, ça veut dire séparé pour Dieu, quelqu'un, à un moment donné, disait, eh bien, je prends un engagement. Je me sépare du monde, de tout ce qui m'entoure pour Dieu. Je veux être dans ma vie entièrement consacré à Dieu. Donc, il devait faire trois choses. Il devait d'abord laisser croître ses cheveux. Il devait s'abstenir de boire du vin, de toute boisson forte, même de manger du raisin, de tout ce qui est lié à la vigne. Et enfin, s'abstenir de toucher un corps mort. Les longs cheveux, est-il besoin de le dire, n'ont rien de commun avec ce que les contestataires, avec la tenue des contestataires d'aujourd'hui. Nous comprenons bien qu'il n'y a aucun rapport entre ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui ressemble à une moquerie de ce que Dieu nous a donné comme ordre établi, la femme qui prend la tenue de l'homme et l'homme qui prend celle de la femme, mais la longue chevelure du Nazaréen attestait pour tous ceux qui l'entouraient que cet homme faisait l'abdication de sa volonté propre, qu'il se soumettait, c'est un signe de soumission, à la volonté de Dieu. Pour nous, c'est quelque chose de moral, de spirituel. Nous n'avons plus besoin de porter des signes extérieurs de notre soumission à Dieu. Le nouvel homme, créé en nous à l'image de Christ, aime réaliser, manifester les caractères de la vie nouvelle, comme l'homme en Adam se manifeste par ce qui le concerne, la souillure, ce qui est lié à lui-même, la souillure, l'indépendance de Dieu. Le Nazaréen s'engageait pour un temps. Le Nazaréen, aujourd'hui, il est perpétuel. Dès que je suis venu à la connaissance du Seigneur, que j'ai reçu une nouvelle vie, c'est pour traduire les vertus de cette nouvelle vie à la gloire de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Le Nazaréen, aujourd'hui, il est permanent, il est perpétuel. Il était pour un temps dans ces jours-là. Il devait s'abstenir de boire du vin. Bien entendu que nous ne sommes pas sous les impositions de la croix bleue. Use d'un peu de vin, mais le vin, image de la joie, est aussi et encore quelque chose de moral. C'est-à-dire que les joies qui sont en deçà de la mort, les joies que les hommes recherchent, que les hommes trouvent dans leurs arrangements sociaux, dans leurs contacts, dans la recherche de leurs objectifs, le croyant n'a plus rien de commun avec cette joie qui se trouve donc pour les hommes en deçà de la mort et marquée par la mort. Mais la joie du chrétien est au-delà de la mort et porte un cachet céleste et à une perspective éternelle. La joie du croyant est donc en dehors des joies du monde, des joies que les hommes recherchent par la poursuite en commun de leurs objectifs pour trouver sur la terre un état de choses dans lequel il fera bon vivre, oubliant qu'ils sont chassés du jardin d'Éden et que plus personne ne peut recouvrer l'état du jardin d'Éden. Donc, ne plus boire de vin, ni les boissons fortes, c'est-à-dire le Nazaréen se séparait de tout ce qui est lié à la joie que les hommes recherchent sur la terre. Les récapites en leur jour, Jérémie 35, sont un exemple saisissant de ces véritables Nazaréens. Et enfin, il redoutait de toucher un corps mort à quelque prix que ce soit, car la mort, fruit manifeste du péché, était donc pour eux, par ce contact, l'identification avec le péché qui est la source, la cause de la mort. Vous voyez, trois choses essentielles. La soumission à Dieu, le respect de la volonté de Dieu qui conduit la mienne, à laquelle la mienne se subordonne, doit être subordonnée pour faire la volonté de Dieu, dit l'apôtre. En dehors des joies du monde, d'un monde qui est coupable de la mort de Christ, et enfin, en dehors de toute souillure, quelle qu'elle soit. Voilà donc le caractère du vrai Nazaréen, secret de la force. Mais, pour que cet enfant soit le Nazaréen promis par Dieu, il fallait d'abord que sa mère réalise elle-même ce caractère. Et nous pouvons dire en passant, chers amis, malgré tous les échecs douloureux que nous rencontrons dans nos familles, et nous savons bien ce qu'il en est. Un enfant ne pourra jamais oublier l'impression qu'il a reçue auprès de sa mère quand il était jeune. Il ne peut jamais effacer cela. Et un jour, Dieu se souviendra des prières des parents, de la piété de la mère, et nous pouvons tenir pour certains qu'un jour, Dieu se souviendra des promesses qu'il a faites. Malgré les échecs apparents et douloureux que nous rencontrons, un exemple rapidement dit d'un homme qui n'a jamais oublié l'enseignement de sa mère, c'est David. Quand il dit à l'égard de l'arche qu'il amène sous des tapis, car son premier souci dès qu'il est devenu le roi, c'est d'amener l'arche dans une demeure digne d'elle. Et il nous dit dans le psaume 132, anticipant ce que Salomon son fils allait faire à l'égard de l'arche, l'introduisant dans le temple, dans le palais qu'il avait établi pour l'arche, David nous dit, voici, nous avons ouï parler d'elle, à Ephrata, autrement dit à Bethléem. Mais on ne trouve jamais que l'arche se soit trouvée à Bethléem. On peut chercher dans les livres de Samuel. Mais il ne dit pas, voici, nous l'avons vu, nous avons joui par les d'elle. Et si on réfléchit bien, chers amis, eh bien, David nous rappelle ce que nous avons quelquefois dit, qu'il nous rappelle dans ce psaume ce qu'il entendait étant enfant dans la maison de son père Isaïe. Il ne l'a jamais oublié. Et dès qu'il est le roi, le premier souci qu'il a, c'est ce qu'il entendait dans la maison de son père. On parlait de l'arche, on parlait du Seigneur. C'est un cas en bien. Les fils de Samuel n'ont pas été fidèles, mais Dieu s'est souvenu des prières de cet homme de Dieu, qui était dans le temps précisément quand l'arche est entrée dans un concours de chants, de louanges, qui n'a jamais été dépassé dans l'histoire d'Israël. C'est un sommet dans l'histoire d'Israël. Qui est le chef des chantres pour diriger toutes ces cordes de chanteurs, de musiciens? Exalter la puissance de l'Éternel et proclamer qu'il est bon, que sa bonté demeure à toujours. Cet aimant le chante, et vous pouvez chercher dans 1 Samuel 6, qui est cet homme? C'est le fils d'un infidèle, mais il est le petit-fils de Samuel. Il faut que, pour que cet enfant soit nazaréen, il faut d'abord que la mère le soit. Et la femme vient raconter à son mari qu'elle a vu un homme de Dieu qui était très, très terrible. Au verset 8, Manoah supplie l'Éternel et dit, « Ah Seigneur, la manière de prier de Manoah est en elle-même un exemple, une preuve irréfutable que c'est un couple pieux. Car ceux qui ont dit, qui ont parlé comme Manoah en s'adressant au Seigneur, depuis le commencement que cette expression a été employée, ce sont ceux qui, dans la parole de Dieu, ont été marqués par des rapports étroits avec l'Éternel. » Et nous l'avons lu à dessein, à la fin de sa vie, Samson va se rappeler aussi que comment son père priait à la maison. Et il va dire, dans sa dernière prière, avant de trouver une mort effroyable, mais faisant appel pour la dernière fois, malgré son infidélité, malgré le fait qu'il s'est moqué de Dieu, par ses associations charnelles, regrettables, Samson puise dans le cœur de Dieu une dernière ressource pour vaincre les ennemis d'Israël. Et à qui va-t-il s'adresser? Comme son père. Ah, Seigneur éternel, dit-il. Eh bien, Manoah nous prouve, en employant cette expression, qu'il est un homme pieux. Car qui a dit le premier, en s'adressant à Dieu, Ah, Seigneur éternel? C'est une expression extraordinaire, celle-là. Que veut-elle dire? Qui l'a employé le premier? Eh bien, c'est le père de nous tous. C'est Abraham, deux fois, qui s'adresse à Dieu en disant, « Ah, Seigneur éternel !» Moïse l'emploiera lui-même. David, en son jour, le dira. Gédéon va le dire également. Jérémie, Ézéchiel, ces grands hommes de Dieu, au jour de leur détresse, ou autrement, dans d'autres circonstances, comme David, au fait de la joie que produit la communion avec Dieu, lorsque Dieu lui fait les promesses les plus extraordinaires, il va dire, « Ah, Seigneur éternel !» Est-ce là la manière de l'homme? Mais que veut-il dire en disant, « Ah, Seigneur éternel !» Comme Manoah, « Ah, Seigneur !» dit-il, il supplie. Manoah supplie à l'Éternel et dit, « Ah, Seigneur !» Son fils dira, « Ah, Seigneur éternel !» Mais que veut-il dire? Eh bien, chers amis, nous allons le dire tout de suite. En disant, « Ah, Seigneur !» Ah, Seigneur éternel, ils disent, Ah, Seigneur Jésus, car l'Éternel, c'est Jéhovah. Notre langue est assez riche à ce point de vue, car c'est un croyant savant français au XVIe siècle qui a introduit le premier, le terme l'Éternel pour traduire Jéhovah. Je suis celui qui suis. Jéhovah, Jéhoshua, Josua, Josué, Jésus, c'est un seul et même mot, suivant la langue dans laquelle on le dit. D'ailleurs, nous avons souvent rappelé que dans l'Épître aux Hébreux, dans la Bible anglaise, traduite par VND, si Josué leur avait donné le repos, le mot Josué, le nom Josué, en grec, c'est Jésus. Et JND a traduit en anglais, si Jésus leur avait donné le repos. Jésus, Josué, Josua, Jéhoshua,
Jéhovah, Jéhovah Sauveur, c'est Jésus. L'Éternel est donc un terme prestigieux sans doute, mais que nous n'avons qu'en français, car la Bible anglaise, la Bible allemande n'a pas l'Éternel. C'est chaque fois Jéhovah. D'ailleurs, Hébreux, dans l'Épître, pardon, dans le livre de l'Exode, vous voyez, nous n'avons plus le temps, mais je veux quand même citer le passage pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Dieu dit à Moïse, au chapitre 6 du livre de l'Exode, au verset 2, Dieu parle à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom d'Éternel ou de Jéhovah. » Jéhovah Sauveur. Et dans Genèse 2, la première fois que nous avons le nom de l'Éternel, c'est quand Dieu s'occupe de l'homme. Premier chapitre, pour déployer la création dans toute sa grandeur, c'est Elohim. Mais lorsque l'homme est en scène, Genèse 2, c'est l'Éternel. L'Éternel Dieu, c'est-à-dire Dieu, sur toute chose bénie éternellement, dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, mais qui prend ce nom de Jéhovah ou d'Éternel pour affirmer son immuabilité et sa fidélité éternelle aux promesses qu'il a faites à l'homme. De sorte que quand Manoah, comme tous les hommes de Dieu, emploie, comme son fils le dira, « Ah, Seigneur éternel », il fait appel aux ressources du cœur de Dieu, à la fidélité éternelle de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. « Ah, Seigneur », dit-il, il nous montre ainsi par là que c'est un homme pieux, que c'est un homme qui prie, que c'est un homme qui a des rapports de piété, de confiance et de dépendance avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait, chers amis, à l'égard de cet homme qui dit « Ah Seigneur !» Car Dieu a fait Seigneur et Christ, évidemment, ce Jésus que vous avez crucifié. Parce que quand ils disent dans l'Ancien Testament « Seigneur éternel », ils disent « Ce qu'il est devenu maintenant, Seigneur Jésus !» Ce Jésus qui a été humilié, qui a été crucifié, qui est descendu dans les parties inférieures de la terre, est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux et que Dieu a fait Seigneur et Christ. Donc, quand il dit Seigneur éternel, cela correspond à ce que nous disons aujourd'hui, Seigneur Jésus. N'est-ce pas extraordinaire, ce, c'est un nom, c'est le nom qui traverse toute l'Écriture. Le nom a tout jamais béni éternellement. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire quand nous invoquons le Seigneur Jésus? Si vous demandez quelque chose en mon nom, voyez, ah Seigneur, que l'homme de Dieu, et Dieu, verset 9, exauça la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Et nous avançons maintenant, elle vient dire, voici l'homme est venu vers moi. Et Manoah, au verset 11, vient demander à l'homme, es-tu cet homme qui a parlé à cette femme? Et il dit, c'est moi. Si vous voulez chercher, chers jeunes amis, dans le prophète Ésaïe notamment, je vais seulement citer des versets. Vous allez voir, toutes les fois chercher que le Seigneur s'appelle « C'est moi », par exemple, « Es-tu Jésus ?» dans la fin de l'évangile de Jean. Quand le Seigneur dit « C'est moi » à l'égard de la question qui lui est posée quant à son nom, ses ennemis reculent et sont jetés par terre. Rien qu'en disant « C'est moi ». Dans le prophète Ésaïe, je cite seulement deux versets, rapidement, dans le chapitre... Dans le chapitre 44. C'est moi, dit-il à la femme, à l'homme, au père de à Manoah, au père de Samson. C'est moi. Eh bien, voyez, au verset 24 d'Ésaïe 44. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, et celui qui t'a formé de la matrice. C'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes ces choses, qui seul ai déployé les cieux. C'est moi qui ai fait cela. Personne d'autre. C'est moi qui ai tendu les cieux. Et dans la colonne qui suit, au chapitre 45, verset 12, « Moi, j'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. C'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux. » C'est intéressant de chercher toutes les fois que Dieu dit, que l'Éternel dit, « C'est moi. » Eh bien, es-tu l'homme qui a parlé à cette femme? C'est moi, l'Éternel. Mais c'est moi l'Éternel. C'est moi Dieu, sur toute chose bénie éternellement. Et cet homme, Manoah, va le réaliser, car vous voyez, au verset 9, l'ange de l'Éternel. Au verset 11, l'homme qui parle avec cette femme. Au verset 13, l'ange de l'Éternel. Et enfin, l'ange de l'Éternel au verset 21. Et Dieu au verset 22, c'est une seule et même personne. L'ange de l'Éternel, cet homme, l'Éternel et Dieu, c'est une seule et même personne. Mais voilons sa gloire pour approcher ce pauvre foyer en vue de la délivrance et de la bénédiction de ce peuple, ému de compassion en voyant la détresse dans laquelle ils étaient plongés. Alors, encore quelques réflexions seulement. Cet homme Manoah, il a reçu un exaucement extraordinaire. Il n'hésite pas un instant, comme Jacques nous le montre, à l'égard de la prière qu'il a présentée. Il est certain que Dieu va répondre. Que faudra-t-il faire, dit-il, quand ce que tu as dit va arriver? N'éprouve pas de la moindre peine à accepter que Dieu va intervenir en puissance et en grâce en faveur de son épouse, quoique matériellement et naturellement, il n'y a pas d'espoir à cette stérilité. C'est donc un homme de foi qui s'appuie sur les promesses de Dieu, qui les tient comme accomplies, pour accomplies. Et Dieu va lui répondre, évidemment. Il demande alors pour lui permettre de le retenir et d'apprêter un chapeau, et d'avoir un repas ensemble. Alors cela vaut bien la peine que nous asseyons autour de la table et que nous t'offrions un repas au cours duquel nous voulons t'honorer. Ah, dit-il. C'est une réponse, celle-là, qu'il convient de noter. Ah, dit-il, si tu me retiens, je ne mange pas de ton pain. Pourquoi? Parce que les enseignements modernes de la théosophie et d'autres philosophies religieuses, sans doute la pire de toutes, la philosophie religieuse, qui nous enseigne et qui nous montre que nous pouvons nous développer et qu'après tout, le moi, le vieil homme peut s'améliorer pour devenir un être tel qu'il peut se placer dans la présence de Dieu, c'est l'évangile du diable. Car il n'y a pas de relation possible avec Dieu sans le sacrifice de sa vie. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure. Il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu me retiens pour manger du pain, ou autrement dit, pour être ton compagnon, pour nous associer ensemble sur un même terrain, il n'est pas possible que je m'associe à toi. Il n'y a pas de relation possible entre sa vie sainte et la nôtre, vie déchue. Il n'y a pas de point commun possible. Mais il ajoute, mais si tu fais un sacrifice, alors tu l'offriras sur l'autel. Et tu deviendras alors un adorateur. Ce seront de toute autre condition. Et c'est ce que Manoah va faire, chers amis. Alors il va offrir sur le rocher. Quand il fut en ce lieu-là, ayant gravi le rocher, Golgotha, voilà le lieu qui est devant nous maintenant, quand il fut en ce lieu-là, il offre un chevreau sur le rocher. Et il lui a demandé son nom. Mais pouvait-il déclarer son nom avant qu'il descende du ciel, s'anéantissant lui-même, s'abaissant lui-même, et qu'il prenne ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, le beau nom de Jésus? Il ne pouvait pas déclarer cela. C'était trop tôt. C'était pour nous que cette joie, que ce privilège était réservé. Il est impossible, Manoah, que je te déclare mon nom. Mais il fait une chose, il est merveilleux, mais il va faire une chose merveilleuse. En vertu du chevreau offert sur le rocher, ce qu'il y a d'abrupt, de déchiqueté, de stérile, la mort dans laquelle il est entré, la croix sur laquelle il fut cloué, dans la flamme de l'autel, du rocher s'élève la flamme, et le voilà qu'il monte dans la flamme de l'autel. Celui qui a souffert, qui est descendu dans les parties inférieures de la terre, est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, inaugurant ainsi le chemin nouveau, vivant, par lequel nous pénétrons à sa suite jusqu'au ciel où Dieu l'a reçu. Et nous pénétrons là pendant le culte pour l'adorer, en attendant d'y être avec lui dès qu'il nous aura appelés, et c'est peut-être ce soir.